Eh bien le bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 14 de Road to 10 Million, le seul podcast du top 100 Spotify. Je suis peut-être un petit peu ambitieux, mais en tout cas très certainement du top business qui n'a pas de jingle. Voilà, ça démarre. L'attendez pas, il va pas venir. Il y aura rien, c'est directement l'introduction, elle est réenregistrée à chaque épisode. Ça veut dire qu'elle sort à chaque fois avec des mots différents. Mais je vous la refais pour que vous sachiez où vous avez atterri. Bienvenue dans le podcast Road to 10 Million, je suis Théo Lyon. J'ai 25 ans et je suis le fondateur de Koudak, mon agence de pub qui aide les e-commerçants et les startups sur trois choses. Le media buying, si vous savez pas ce que ça veut dire, on s'en fout, et chercher sur internet, c'est pas le sujet du podcast. La créa et le tracking, pour aller chercher les deux d'après, même si je pense qu'ils sont un petit peu plus self-évidents, pour faire un vilain anglicisme dès la première minute. En 3 ans et demi, mon entreprise a atteint 350 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et plus de 50 salariés, c'est d'ailleurs même 60 avec le rachat de la semaine dernière. C'est une aventure que j'ai documentée auprès de mes 293 000 abonnés, toutes plateformes confondues. Il y en a sur TikTok, il y en a sur Instagram, il y en a sur YouTube, il y en a sur LinkedIn, il y en a en podcast, il y en a sur X maintenant, et plus Twitter. Donc peu importe où vous cherchez, normalement vous pourrez me trouver, pas encore sur Twitch, peut-être que ça arrivera un jour, je ne sais pas. Donc vous cherchez Théo Lyon ou Théo Le Lyon, ça marche aussi. Je précise d'ailleurs au passage que Lyon est mon vrai nom de famille, hein. Il y a quelques personnes qui s'interrogeaient dessus, pensaient que c'était un pseudonyme. Non, non, je m'appelle bien Théo Lyon. Et souvent Théo Le Lyon sur les réseaux sociaux parce que c'était pas disponible, Théo Lyon. Peut pas faire genre qu'il y a d'autres Théo Lyon dans ce monde. Mais disons que j'accepte l'idée. Donc, l'étape suivante de ce podcast, enfin de mon aventure, tout court, pardon, c'est d'emmener mon entreprise à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires mensuel, annuel, pardon, ce qui fait 833 000 mensuels. Et donc, c'est ce challenge qui donne le nom au podcast. Donc, cette métrique, j'ai envie de l'atteindre avant la fin 2024, précisément novembre 2024, qui est la saison forte de Koudak. Donc, dans cette émission, je me sers de mes expériences personnelles, de mes rencontres et de mes lectures diverses pour vous apprendre comment atteindre le top 1% de ce que vous faites, ce que je m'attelle à essayer de faire du mieux que je peux depuis le démarrage de Koudak. Donc, pour se hisser à cette hauteur, évidemment, il faut apprendre à réfléchir et à agir différemment des 99% des gens parce qu'on veut faire ce qu'ils n'ont pas fait. Et donc, pour ça, il faut se poser des questions qui ne se posent pas. Et j'essaie de me les poser et de donner des débuts de réponses dans ce podcast. Parce que la croissance, c'est comme tout, c'est une compétence et ça s'apprend. Il y a des principes qui traversent les époques pour grossir. Moi, c'est cela que je cherche. Donc, que ces astuces soient professionnelles ou personnelles, j'essaie de faire en sorte, pardon, que vous terminiez chaque épisode en ayant appris au moins une chose qui vous aide à grandir plus vite ou plus loin. Merci d'être avec moi et bienvenue dans l'épisode 14 de Road to 10 Million. Précédemment, dans Road to 10 Million, c'était l'épisode 13 dans lequel je vous communiquais une nouvelle extrêmement importante et qui a peut-être vocation à se reproduire. Peut-être qu'il y aura un nouvel épisode qui s'appellera « On rachète une boîte », je ne sais pas. Je pense que si vous écoutez les épisodes depuis le démarrage, vous savez de quoi je parle. J'ai dû le dire quelque part, en restant un peu vague. Eh bien, nous avons racheté une entreprise. Plus précisément, on n'a pas pris la majorité dans cette entreprise, on a pris un certain pourcentage. Je suis même pas sûr d'ailleurs que je puisse communiquer dessus, mais disons qu'on n'a pas la majorité. Je ne vais pas le faire parce que ça n'implique pas que moi, sinon je vous en aurais parlé directement. Et donc voilà, cette boîte s'appelle Netcord. C'est une agence de création de community Discord et de community management sur le serveur derrière. Donc elle accompagne des gros créateurs de contenu, comme entre autres Squeezie via le GP Explorer. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de me rendre la semaine dernière au GP. C'était une expérience assez unique, dont j'ai été très surpris de l'échelle. Voilà, donc, si vous voulez connaître mon avis plus poussé sur le Grand Prix Explorer, édition 2, vous pouvez vous rendre voilà, dans l'épisode 13. Donc c'est super parce qu'on a aussi communiqué, en plus de le dire dans le podcast, on en a parlé sur LinkedIn le lundi, où non seulement bon, donc j'ai fait un post avec une petite photo qu'on avait prise au GP pour l'occasion et qui a fait son travail d'impression sur LinkedIn, mais en plus toutes les personnes de l'équipe Koudak ont fait des posts pour annoncer la nouvelle. Donc finalement on a vu sa gueule toute la journée, donc, tout lundi on a vu que lui, il a pris plein d'abonnés, il a reçu à peu près une quinzaine je crois de deals entrants en une journée, donc on peut dire que c'est pas mal. Voilà, c'était la première chose. Donc précédemment, je vous fais un petit peu comme les séries américaines, hein, vous savez, Previously in Road to 10 Million. Donc ça, c'était la première chose. La seconde chose, nous avons tourné la semaine dernière, du coup, le Pimp My Brand. Et en fait, comme je vous ai fait un épisode le mardi, normalement je sors le dimanche, mais le dimanche, je vous ai sorti un hors-série avec les amis de Slick. Eh bien, j'ai pas énormément d'actualité, vous allez voir ensuite dans la première rubrique de ce podcast. Parce que normalement, là, je vous aurais parlé de Pimp My Brand, mais j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent. Donc, voilà, on a tourné ce format, donc vous pouvez aller voir l'épisode 1 déjà qui est sorti l'année dernière sur ma chaîne YouTube. Le numéro 2 devrait sortir bientôt. Et troisième chose qui s'est passé dans l'épisode précédent, j'ai recentré l'équipe autour de nos fondamentaux de croissance via le point qui s'appelait Welcome Back, où j'ai voilà, un peu annoncé la couleur pour la rentrée. Et si vous voulez connaître le détail un petit peu de la, ce que ça veut dire les fondamentaux de Kodak, parce que peut-être que vous ne savez pas, vous pouvez aller checker l'épisode de Road to 10 Million cette fois-ci sur YouTube, qui est un épisode trimestriel dans lequel voilà, je passe une quinzaine de minutes à vous expliquer ce que ça veut dire. Donc au menu de ce podcast, c'est bon, nous avons fait les rappels. 5 rubriques. La première, c'est l'actualité de la semaine, perso et professionnel. De quoi est-ce qu'on va parler cette semaine? Nous avons tourné en Lève tes chaussures avec le Raptor. Je vais vous en dire un petit peu plus derrière, notamment la date de sortie. Seconde chose, donc on va remettre les pendules à l'heure. Vous savez que c'est votre rubrique préférée, je crois. Vous l'aimez vraiment beaucoup, celle-là. Dans lequel je vous balance voilà, des petits enseignements qui ont vocation à être expliqués en 3 ou 4 minutes. J'en ai 8 cette semaine, donc ça va prendre un peu de temps. Puis, on va parler du meilleur de la semaine. Donc, je vous parle des meilleurs contenus que j'ai consommés sur Internet, qu'ils soient vidéo, audio ou écrit. Je vous les partage, je vous les commente. Et ensuite, dans le performance check, on va parler du titre de cet épisode. On va se poser la question, qui est le Bernard Tapie du 21e siècle? Parce que, été éveillé à... mon intérêt a été éveillé pour la série, parce qu'on m'a invité du coup à l'avant-première la semaine dernière. Donc j'ai fini de regarder la série cette semaine. Et bah, voilà, j'ai beaucoup de trucs à dire dessus. Je vous ai fait une petite section dessus. Et cette semaine, il n'y aura pas de FAQ. Parce que j'ai envie de terminer sur le performance check. Et puis voilà, c'est bon, je réponds à vos questions toutes les semaines. Vous pouvez vous en passer une semaine. Sinon après, l'épisode va être trop long. J'ai exactement une heure pour l'enregistrer. Après, j'ai un truc à faire. Il est 17h43, nous sommes dimanche 17 septembre. On passe à la première rubrique, Actu. Jingle. Alors, première chose dont je vous parlais. Oh putain. J'ai raté mon entrée dans la première section. Je vais boire un petit peu d'eau. Vous m'excusez. J'ai vu d'ailleurs, là, avant de boire de l'eau, il y a vraiment des grands malades qui ont mis... Alors, vous m'avez déjà envoyé des DM pour me dire « Ouais, les bruits de glotte, c'est chelou, mais c'est marrant. C'est un peu ta marque de fabrique. » Il y a des gens qui sont allés le mettre en commentaire Apple Podcast. Ils ont dit « J'adore les épisodes et surtout les bruits de glotte. » Donc en fait, dites-vous, il y a quelqu'un qui va arriver sur le podcast, il connaît pas, il a jamais écouté Road to 10 Million, il va dire « Bon, c'est intéressant, il y a des bruits de glotte, il va faire quoi? Vous croyez qu'il va appuyer sur play après ?» Putain, soyez sérieux. Et merci beaucoup aussi d'ailleurs pour tous les commentaires que vous êtes allés mettre. Hein, d'ailleurs, oui, je vais prolonger, si vous avez écouté l'épisode précédent, je vais prolonger un peu le challenge, je vais sélectionner quelqu'un pour participer au prochain Enlève tes chaussures. Pour rappel, pour participer, il fallait commenter sur Apple Podcast ou Spotify. Mettre une note et commenter avec votre épisode préféré. Je sélectionne une des personnes qui aura répondu sur ces deux semaines, donc je prolonge d'une semaine. Oui, voilà, je voulais vous dire un truc dessus. Là, et d'ailleurs, sauf erreur de ma part, je crois pas qu'il soit possible de mettre des commentaires sur Spotify. On peut mettre que des notes. J'ai pas vu de gens, donc du coup, j'ai vu que vous les avez mis en réaction à cet épisode. Donc, qu'avez-vous pensé de l'épisode? C'est pas là qu'il faut les mettre, malheureusement. Donc, allez les mettre sur Apple Podcast si vous êtes dessus. Et sur Spotify, mettez juste une note. Et je me rends compte parce que sinon ça fait que vous participez pas. Ouais, c'est dur. Ouais, parce qu'en fait l'intérêt c'est quand même que ça fasse des notes pour le podcast. Donc mais malheureusement je peux pas traquer si vous avez mis une note. Donc vous savez quoi, mettez une note, mettez un 5 étoiles, à 4-5 étoiles et vous me le mettez en DM sur Instagram theo.le.lyon et on va dire que ça compte pour une participation. Alors ouais, c'est ça, j'allais boire de l'eau. J'aurais dû me voir en train de mettre le micro sur ma glotte. Bon, soyons sérieux un petit peu quand même. Hein. C'est le meilleur podcast business de la Terre. Donc, il faut lui donner l'honneur qu'il mérite. Donc, nous avons tourné Enlève tes chaussures avec le Raptor. Pour ceux qui ne connaissent pas le Raptor, il était aussi connu avant sous le nom le Raptor Dissident, un youtubeur très polémique, et son prénom et son nom, c'est Ismail Ouslimani. Donc, c'est une personne dont j'ai découvert le podcast il y a 2-3 mois. Vous l'aurez certainement reconnu si vous écoutez les deux. C'est ce qui m'a donné envie de faire une version audio de Road to 10 Million. Parce que ça m'a ouvert l'esprit sur le fait que c'était possible de faire des solo casts, de parler tout seul, pendant une heure. Et j'avais, il se trouve, le format qui allait bien sur YouTube pour vous faire un truc cool. Donc, j'ai écouté évidemment tous les épisodes de 10 000 pas, qui est le nom de son podcast que je vous invite à aller écouter. C'est le premier podcast de France d'ailleurs. C'est assez incroyable que ce soit arrivé jusque-là. Donc, forcément, c'est quelqu'un. Parce qu'à force d'écouter les podcasts de quelqu'un, j'espère que ça fait ça avec vous envers moi, tu développes une petite sympathie, tu commences à comprendre les idées, le personnage, et tu as pas mal de questions à poser. Moi, j'en avais beaucoup. Donc, j'ai décidé de l'inviter, simplement. Et par où commencer? Vous savez que ouais, j'ai fait gagner, il y a quelques épisodes, la participation à Lève tes chaussures à un auditeur du podcast, qui s'appelle Rémi, et qui est venu. Donc... pour les prochains... à chaque épisode d'Enlève tes chaussures, je pense que je vous le ferai gagner ici. Et je pense que le deal est pas mal si vous mettez une note pour participer. C'est donnant-donnant. Voilà, donc c'est une personne adorable. Donc Ismaël est vraiment une personne super, très, très bien élevée, du coup, qui nous a ramené des bars Raptor Nutrition, qui est sa marque, que je consommais déjà depuis quelques temps. Il m'a ramené les seuls bars que je n'avais pas goûté, donc c'est très cool, je les ai dans le placard là. Il en a ramené pour tout le monde. Et ce qui était génial, c'est qu'il est arrivé un petit peu dans une salle. Donc nous, on enregistre à Versailles. À chaque fois, en fait, on se rassemble avec l'équipe Kodak à chaque tournage. Et là, j'ai invité des potes, donc on était une quinzaine, enfin 15-20. Il est arrivé dans une salle où il y a beaucoup de gens qui le connaissaient et qui kiffaient une partie de son contenu. Donc ça fait un peu l'impression de bain de foule de fans. Et quand on a terminé l'enregistrement, il s'est pris un tunnel de séance photo dont je pense qu'il n'était pas prêt. Donc je pense qu'il a passé aussi un bon moment. Moi, en tout cas, j'ai passé un moment assez incroyable. Franchement, c'est ma meilleure expérience dans Enlève tes chaussures. Pardon, oula, c'est l'eau qui n'a pas bien passé là. C'est ma meilleure expérience, je vous disais, dans Enlève tes chaussures, parce que c'est probablement la personne que j'ai reçue dont j'avais plus consommé le contenu. Et je me rends compte, la numéro 2 de moment que j'ai le plus apprécié, c'était avec Oussama. Donc c'est aussi une personne dont j'ai consommé énormément de contenu. Donc je pense que ça dicte la qualité de l'expérience. Donc bref, et c'est aussi, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, peut-être dans les podcasts, que ce n'est pas le meilleur format pour le voir, mais c'est la personne la plus drôle que j'ai jamais rencontrée. Vous allez le voir, parce que l'épisode va sortir, il sortira en octobre. Alors, je lui ai annoncé la date du 13 octobre à la base, et même je lui ai annoncé à lui, mais dans le content board de calendrier de publication, je vois qu'il y a pas mal de trucs qui vont se mettre avant. Donc possible que ça prenne un peu de temps, donc il va falloir patienter, mais je suis en train de négocier avec Anthony, le head of vidéo de Kodak, pour essayer de vous choper un petit extrait que je pourrais poster dans Road to 10 Million. En hors-série, vous aurez peut-être un truc qui va pop à un moment, qui va s'appeler Mon échange avec le Raptor, hors-série numéro 3, avant d'avoir l'épisode complet sur YouTube. Donc, ah oui, il y a un truc très intéressant qui s'est passé aussi, c'est qu'avant d'enregistrer le podcast en les chaussures, toujours on passe une heure et demie ensemble où on dîne, ça nous permet d'apprendre à faire connaissance. Et dedans, je ne sais plus qui l'a dit, je ne crois même pas que c'était lui, mais dans la discussion, il y a l'idée de faire des crossovers qui arrivaient, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, imagine si on avait reçu le Raptor et Oussama dans le même podcast. Et quand j'ai entendu ça, mon cerveau il a explosé. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Ça doit être ça, la saison 2 d'Enlève tes chaussures. Recevoir des gens stylés et faire des crossovers absurdes. Et donc pour ça, je vous ai envoyé des... Je vous ai demandé simplement sur Instagram quel crossover absurde vous auriez bien aimé voir. Et vous m'avez envoyé des pépites. Je suis en train de prendre mon téléphone, vous entendez peut-être. Je vais vous charger les stories. Et vous m'avez mis des trucs... dans les archives là, hop, vous êtes des grands malades. Donc en gros, le but c'était d'imaginer deux personnes qui pourraient s'asseoir dans le canapé et faire 3 heures d'épisode ensemble et de matcher des gens, disons qu'on n'aurait pas associé au premier regard. Alors, vous m'avez dit quoi? Vous m'avez dit Mimi Mati et JMK, Papacito et Jonathan Cohen, il y en a des tonnes, Cédric Doumbé et Oussama Hamar, ça c'est vraiment quali, Ibra TV et David Laroche. Sandrine Rousseau et Yomi Denzel. Oh là là. Marc Simoncini, Max Agnor et Gotaga. Donc lui, il est sur 3 carrément. Xavier Niel et Eric Judor. Hugo Décrypte et Blaise Matuidi, Booba et Thomas Pesquet, Grégoire Gambato et Benoît Saint-Denis, Jean Covici et Oussama. Oh putain! Donc je pense que je vais essayer de faire des petits crossovers, et là on vient d'en valider un. Bon, c'est pas un crossover absurde, mais c'est deux personnes que vous avez déjà un petit peu vues ensemble, qui font du sport, qui viennent tous deux de sport plutôt de bourrin, et qui maintenant, voilà, disons, font des choses que moi j'ai commencé à faire assez récemment, je vous dis, sans vous le dire directement. Mais si je donne plus d'indices, vous allez trouver directement. On enregistre en octobre, avec donc il y aura 2 invités pour la première fois. Voilà, donc ça c'était Enlève tes chaussures. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Oui, 3 autres choses. D'abord, donc la semaine dernière, Actu Pro quand même un peu, parce qu'on n'oublie pas qu'on travaille. Kodak est une entreprise extrêmement sérieuse et qui a à cœur de satisfaire ses clients, n'oublions pas. D'ailleurs, là-dessus, je me suis rendu compte que j'aimerais bien avoir une petite devise sur Kodak, c'est « Prends ton travail au sérieux, mais ne te prends pas toi-même trop au sérieux. » Bah, peut-être que je la travaille un peu à la punchline, mais vous avez compris l'idée. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu rigoles quand tu parles de ton taf que t'es pas sérieux dans ton taf. C'est un peu le message, la branche Kodak, disons. Donc, on discute avec actuellement pas mal de fondateurs d'agences SEO et Google, donc soit des free plus, soit des petites agences, parce qu'on va pas tarder à, je pense, appuyer sur la gâchette là-dessus, soit fin 2023, soit début 2024. Si jamais vous êtes dans ce scope-là, sachant que ce ne sera pas vraiment un rachat de boîte comme on a fonctionné avec Netcore, parce que c'est quand même assez proche des expertises qu'on a à la base. On a déjà beaucoup de clients qui le demandent, ce truc. Ce sera plutôt une intégration dans le groupe. là où on en est, disons, dans les réflexions. Donc, si, enfin voilà, la fenêtre va bientôt se refermer. Si vous voulez faire un truc avec nous, c'est maintenant. Mettez-moi un DM. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de candidatures. J'ai fait une story. J'ai reçu, je pense, 30 demandes qualifiées, sérieuses. Et la semaine dernière, j'ai fait que des calls de 15 minutes avec tout le monde. J'ai sélectionné 4-5 personnes. Et on va voir comment ça avance. Voilà, voilà. Donc, je vous tiendrai au courant. Mais vous avez les scoops. Hein. Vous savez que tout ce que je dis dans ce podcast, enfin, la majorité des nouveautés, je les dis nulle part d'autre que dans ce podcast. Vous êtes les seuls au courant. Je ne parle pas sur Instagram. Et deux actus plus personnelles, cette fois-ci. Un peu de running. Donc, si vous me suivez sur Strava, est-ce que je vous mets le lien dans la description? Est-ce que je fais le forceur? Parce que, les amis, j'ai que 120 abonnés sur Strava. Strava, c'est l'application pour loguer ses courses. Et vous savez que je me chauffe pour un semi à Boulogne le 25 novembre, je crois, au 25-26. Donc, je me prépare. Et là, je commence à prendre la prépa très au sérieux. Cette semaine, j'ai couru 28,66 km, qui équivaut à 3 séances. Pour les coureurs dans l'audience, c'est pas beaucoup. Mais pour moi, c'est énorme, sachant qu'en plus, je fais mes 3 à 4 séances de salle de sport. Donc, je suis en train de devenir, je crois que ça s'appelle un hybrid athlete, athlète hybride. Et donc, je découvre progressivement ce que ça veut dire. Comment est-ce qu'on progresse en course? Et c'est pas du tout pareil qu'en muscu, en fait. C'est assez paradoxal. Parce qu'en muscu, il faut souvent te pousser. C'est-à-dire essayer de faire ce qu'on appelle le progressive overload. Qui est d'ailleurs, c'est pas exactement ça qu'on fait pas en course. Mais il faut souvent essayer de pousser lourd. Il faut te pousser à ta limite. Soit en nombre de reps, soit en charge absolue. Mais en running, il y a une affaire de volume total. Donc, il y a un truc qui s'appelle l'endurance fondamentale, qui consiste à ne pas te mettre dans une zone rouge, te mettre dans une zone BPM, tu peux courir ad vitam, et tu cours lentement, juste pour enquiller du volume, et c'est ça qui te fait progresser. Et donc, c'est un peu un mindset contraire à la muscu que je suis en train de découvrir. Et c'est pas parce que tu t'es pas cramé à la fin de l'entraînement que tu n'as pas fait un bon entraînement. Ça, c'est dur à comprendre. Donc, c'est le premier challenge, le semi-no-prep, qui est en train de devenir semi-full prep, là. Et le challenge séché pour scaler, dans lequel, je vous rappelle, j'ai encore 2 semaines pour essayer d'atteindre entre 10 et 12% de body fat. Je m'étais donné cet objectif, j'avais 9 semaines pour le faire. Bon, je progresse gentiment, hein, le poids se stabilise autour de 82, j'ai 82,6 pesé ce matin. Je commence à 84,5, j'ai perdu 2 kilos. Je pense qu'il faut que je descende encore un peu plus bas, j'ai 2 semaines avant de me faire scanner là. Donc on va voir ce que ça donne. Et par contre, je continue à progresser en termes de force pour les amateurs de sport. C'est cool, je viens de taper. Je suis content, j'ai des petits records personnels à 100 kg sur 3 reps au développé couché, 65 kg sur 3 reps au développé militaire. Et voilà, je continue à progresser au global, ce qui est cool, tout en perdant du poids et en perdant de la graisse. Donc, je vous ferai un full débrief, vous inquiétez pas. Je pense que je ferai un épisode dès que j'aurai fait le scan sur plus largement la performance personnelle, qui est un petit peu le thème du trimestre que je viens de passer là, le Q3. Et notamment mes OKR perso que je vous avais annoncé. Comment est-ce que vous devenez une machine personnelle dans tous les domaines de votre vie. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai découvert ou pas. Voilà. Sur la partie contenu, on n'a pas énormément de contenu qui sort cette semaine sur YouTube. Je crois qu'il y en a un qui sort. Oui, c'est la masterclass sur le tracking. Donc, on va parler de cette partie un petit peu plus technique de la publicité sur Facebook. Si vous êtes un marketeur et que vous faites tourner des pubs simplement, ça sera un incontournable. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes vidéos. Il n'y a même pas du tout de bonnes vidéos sur YouTube. Donc, ça sera de loin la meilleure. Enregistrée avec ce cher Florent Kilbo, Head of Tracking et Data chez Kodak. Je bois un petit peu d'eau et on passe aux pendules à l'heure. Jingle. C'est presque le même jingle que la partie 1. Ok. Donc nous sommes dans les pendules à l'heure. C'est une rubrique qui consiste en quoi ? Prendre des croyances un peu impopulaires, les expliquer et vous permettre de vous faire un avis dessus. C'est une rubrique qui vous permet de faire moins d'erreurs. Donc, on prend une pendule, on la remet à l'heure, parce que parfois, ça tourne pas rond. Première idée que j'ai envie de vous partager. Est-ce que vous voyez ces FDP qui disent « Ouais, l'entrepreneuriat, en fait, je t'explique, c'est un marathon qui se court à l'allure d'un sprint. » Va te faire enculer. C'est le truc le plus con que j'ai jamais entendu. Ça sera la première pendule à remettre à l'heure. En fait, prenez-le physiquement. Ça m'étouffe tellement, c'est con. C'est pas possible de courir un marathon à l'allure d'un sprint. C'est pas possible. Tous les gens qui ont fait ça, ils sont morts. Ils sont sur le bord de la route, là, évanouis, en train de en train de clamser. Et vous les avez vus, hein, si vous avez fait des courses. Des courses de plus de 10 km. À partir de 15 km, il y a des gens qui s'évanouissent. Et d'autant plus maintenant avec mon XP de la course, je sais que ça n'est pas possible. Tu peux pas faire tous tes entraînements en sprintant. Et certainement pas un marathon. Et parce que, bon, alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ce truc-là? C'est parce qu'il y a pas mal de façons d'expliquer pourquoi c'est de la merde et qu'est-ce que vous devez faire à l'issue de ça. La prochaine fois que vous entendez cette dinguerie, vous faites « Ouais, ouais, c'est comme les gens qui disent « Ouais, moi, je vis ma vie à 100 à l'heure. » va te faire enculer en fait. Donne-moi un lieu plus commun que ça. Donc déjà, la différence entre l'entrepreneuriat et un marathon, bah, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Tout le monde ne court pas 4295 km là. La ligne d'arrivée, tu dois te la donner toi-même. On a déjà parlé dans une précédente pendule remise à l'heure. Et donc, selon combien de temps dure ta course, toi, tu peux décider l'allure que tu vas avoir. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de juger l'allure des autres. Parce que parfois, tu as des gens, leur but, c'est de faire un hit and run, donc revendre sous 3 à 5 ans leur boîte. Et donc, ils sprintent comme des fils de pute. Mais si toi, tu fais une aventure qui dure 15 ans, bah, tu vas te cramer. Sauf qu'eux, ils auront terminé. Toi, tu vas encore devoir courir 10 ans. Et là, tu vas être mort. Et la grosse différence avec le marathon, une aventure entrepreneuriale, c'est que tu ne peux pas être linéaire. Ça veut dire que tu prends pas une allure genre ouais, je vais faire 6 du kilomètre et tu l'as fait sur 42 kilomètres. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. En fait, l'aventure entrepreneuriale t'impose des temps forts. Donc toi, tu as une jauge d'énergie au démarrage de la course qui peut durer le temps qu'on veut, je vous le rappelle. Et il y a des moments où il faut sprinter et des moments où il faut se reposer. Quand tu as une aventure entrepreneuriale, tu sprintes par exemple quand tu dois lever des fonds, quand tu as une saisonnalité qui est forte, quand tu as un gros concurrent qui arrive et que tu dois mettre un coup de patate pour lui mettre la tête sous l'eau. Ça, c'est des moments où il faut sprinter, il ne faut pas garder l'allure de fond. Et justement, faut pouvoir. C'est un exercice stratégique. Et c'est là où tu as de la stratégie, en fait, sur l'entrepreneuriat. C'est que tu as une stratégie dans l'allocation de ton énergie. Et si tu gardes le même rythme de croisière, en fait, c'est comme dire il n'y a pas de temps fort. C'est l'équivalent de dire ça. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de moment où il faut être plus près que d'autres. Et s'il y a des moments où il faut que tu sois plus près que d'autres, ça veut dire qu'il y a des moments où il faut que tu ailles plus lentement que d'autres. Et c'est là où les gens se crament, selon moi. C'est parce qu'ils savent sprinter, mais ils ne savent pas ralentir. Donc, il faut savoir quand se reposer, c'est la première chose. Pendant un marathon, tu ne t'arrêtes pas. Tu vas me dire pendant une aventure entrepreneuriale, probablement pas, mais tu peux courir très très lentement quand il n'y a pas d'échéance particulière, si tu sais que tu vas sprinter derrière. Si tu sais quand est le prochain sprint. Pardon. Et donc, autre différence entre le marathon et l'entrepreneuriat, c'est que tu n'es pas tout seul. L'entrepreneuriat, c'est un sport d'équipe. Et donc, dans une boîte, imaginez-vous un truc très simple, c'est qu'il y a un projecteur. Ce projecteur, il décide qui va sprinter. Et il est toujours tourné vers le maillon le plus faible de la chaîne. C'est la personne qui doit sprinter. C'est comme un peloton de cyclisme. Vous voyez, ils sont tous dans la spie les uns des autres. Et quand ils sont à 4-5, là, dans l'échappée, ils prennent des relais. Et donc, vous voyez, le premier, il a pris son relais, il prend le vent pour tout le monde, et ensuite, il va se replacer, toc, derrière le peloton. Et il ne faut pas qu'il lâche. Et le peloton, en fait, voilà, la personne derrière, parfois, elle se fait lâcher, il faut qu'elle revienne à l'allure du groupe pour pouvoir le suivre. Et ce qui est pas mal, c'est que quand tu as un groupe qui court vite, la personne qui est tout devant ne fait pas le même effort que la personne qui est tout derrière. Et donc parfois, il faut juste se mettre dans la spie. Donc c'est là où c'est très très difficile en fait en entrepreneuriat, c'est qu'il faut faire courir plus vite la personne derrière, parce que ce n'est pas comme dans un peloton de cyclisme, il y a toujours un qui est en train de décrocher, c'est structurel, toujours. Et donc il faut essayer de faire en sorte de le faire rentrer dans le rang ou alors décider que la personne n'est plus dans l'équipe, et donc ça veut dire se séparer. Et il faut faire en sorte que ça ne ralentisse pas devant non plus. Donc tu es sans arrêt entre les deux, quoi. Cultiver tes pépites pour qu'elles tirent la boîte et même toi-même tirer la boîte et faire en sorte que derrière t'es pas un maillon de ta chaîne, c'est pas forcément une personne derrière, ça peut être aussi être un produit, une fonctionnalité, etc. qui te fasse ralentir. Et donc la conclusion c'est quoi? C'est qu'un marathon ça se court pas à l'allure d'un sprint, un entrepreneuriat ça se court pas à l'allure, c'est pas un marathon qui se court à l'allure d'un sprint, putain j'arrive pas à le dire, c'est courir un marathon en fractionné. Voilà. Tu choisis quand tu accélères, tu choisis quand tu ralentis, mais ne fais pas le trou du cul à sprinter, parce que même le fractionné, c'est pas du sprint. C'est une allure rapide. Voilà, c'était la première pendule. Seconde pendule, ça s'appelle accepter la lumière. Donc, moi, j'ai grandi à Versailles, les amis. J'ai grandi à Versailles dans une famille qui n'était pas particulièrement catholique, tradie, etc. J'ai un peu grandi comme la famille modérée au sein de, justement, des gens un petit peu plus tradis. Mais j'ai reçu une éducation que reçoivent tous les petits-enfants de Versailles, c'est ne fais pas de vagues. Donc, sois discret. Ne prends pas de place parce que dès que tu es visible, tu es en danger. Et je suis convaincu que c'est vrai. Plus tu es en vue par des gens, plus ils peuvent t'attaquer, plus ils ont d'armes sur toi et toi, tu n'en as pas sur eux parce qu'eux, ils sont dans l'ombre, etc. Et ça m'a posé problème quand les projecteurs, typiquement, se tournent sur moi. La première fois que je l'ai beaucoup ressenti, c'est sur mon premier passage sur BFM. Quand je suis passé sur BFM, en gros, il y a une rubrique où on te donne la parole. Et tu n'es pas habitué à ce truc-là. Moi, là, je suis habitué à prendre la parole. C'est pas pareil. Je prends la parole sur YouTube et là, il y a une host qui te fait « Ok, Théo, qu'est-ce que t'en penses ?» Et là, caméra sur toi, boum, boum, lumière. Et j'ai eu beaucoup de mal à accepter la lumière. C'est-à-dire accepter que tu as la parole. Il ne faut pas que tu fasses la petite salope en mode « je ne suis pas trop sûr, peut-être que ça, peut-être que si, etc. » En fait, tu es sur scène. Et sur scène, les gens ils viennent pour voir un show. Ils viennent pour te voir toi. Donc, tu n'as pas le temps de faire le mec qui n'a pas trop confiance en lui, qui refuse un petit peu. Et à chaque fois que ça se passe mal, c'est quand tu refuses l'effort. Tu refuses la difficulté. Tu refuses l'obstacle, exactement. C'est comme un cheval. Un cheval. Vous voyez une compétition de saut d'obstacle, un cheval. Il y a des chevaux qui font des refus d'obstacles. C'est-à-dire qu'ils ont déjà commencé à prendre leur élan. Ils courent, ils courent, ils courent, ils courent. Et devant l'obstacle, il faut « ah, non !» En fait, la décision de sauter l'obstacle, tu l'as prise quand tu as choisi de faire le sprint. Donc, tu ne peux pas arrêter devant l'obstacle. Quand tu arrives devant l'obstacle, tu tapes ton meilleur saut. Tu te pètes la gueule, mais tu tapes ton meilleur saut. Et c'est très, très dur pour les gens qui n'ont pas reçu une éducation de « faut se mettre en valeur, etc. Faut être conscient de ses qualités, faut avoir confiance en soi. » C'est pas des choses que j'ai reçues beaucoup, ça, moi. C'est très, très dur d'accepter cette lumière. De se dire « ok, là, la lumière, elle est sur moi. Vas-y, t'es quoi, je vais leur donner un bon show. » C'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre et que j'ai pas, honnêtement, pas eu l'occasion de faire parfaitement sur tous mes passages sur BFM. Je le referai potentiellement plus tard. Mais il faut bien comprendre que personne n'aura plus confiance en toi que toi-même, pour une raison très simple. C'est, disons que tu rencontres un inconnu. Comment le formuler cet exemple ? J'ai un truc en tête. Bon, en gros, quand tu as une personne qui n'a pas confiance en elle, qu'est-ce que tu te dis ? Tu te dis que la personne qui la connaît le mieux, c'est elle-même. Donc elle, c'est elle qui a le portrait, le tableau le plus précis de est-ce que cette personne est respectable ou pas. Si toi-même, tu ne te respectes pas, tu n'as pas confiance dans ce que tu sais faire, pourquoi est-ce qu'un inconnu qui connaît 0,001% de ce que toi tu connais sur toi devrait te faire confiance. Et c'est pour ça que les gens te traiteront jamais avec plus de respect que le respect que tu as pour toi-même. Et donc ça commence par l'éthique personnelle, le respect de soi. C'est pour ça que le sport, j'adore, c'est parce que c'est une façon de développer du respect de soi et de la confiance en soi. Tu deviens respectable, tu te respectes. Tu respectes ton corps, et après tu commences à respecter ton esprit, et finalement tu te respectes. Donc finalement les autres gens commencent par finissent par te respecter. Voilà. Donc, mon conseil là-dessus, à la fin donc de cette pendule numéro 2, comment est-ce qu'il faut la remettre à l'heure ? Il faut accepter qu'on t'a donné le micro. Et ça peut être très métaphorique. Hein. Quand on t'a donné le micro, ça veut dire que c'est ton tour de briller, d'emmener les gens. Voilà, la lumière, elle est sur toi. Soit tu la prends, soit tu crumbles, comme on dit en anglais. Tu t'écroules. Donc, il y a des gens qui veulent t'écouter. Il n'y a pas de médaille, en fait, pour faire la diva qui ne veut pas prendre l'attention en mode « Ah non, mais moi, tu comprends, j'aime pas trop la lumière, j'aime pas qu'on parle de moi, etc. » Dans ce cas-là, en fait, viens pas, juste tout court. On s'en fout. Les gens s'en foutent. Et y a la lumière, les gens, ils ont payé leur place, ils veulent du show. Donc, tu leur donnes toi-même. Voilà pour le numéro 2. Numéro 3. Alors, celui-là, j'allais dire, il va faire discuter dans les chaumières, comme on dit. Je ne sais pas si c'est ça l'expression, c'est pas exactement ça. Crier dans les chaumières. Parce qu'à chaque fois, je pense à ce salaud, là, de la semaine des 4 jours là. J'ai fait un truc comme ça. J'ai écrit ce n'est pas un échec de se cramer. Alors, laissez-moi être un petit peu plus précis là-dessus avant que vous vous offusquiez là sur vos grands chevaux. Bon, nous sommes des sportifs de haut niveau, du moins les gens qui jouent au jeu auquel moi je joue, de construire quelque chose de très gros. Encore une fois, si vous ne jouez pas à ce jeu, quand bien vous en fasse, aucun problème, ça ne s'adresse pas à vous, pardon, et probablement tout ce podcast ne s'adresse pas à vous. Donc vous pouvez l'éteindre et aller regarder un truc plus léger. Donc, l'objectif d'un athlète, c'est quoi ? C'est de trouver sa limite. C'est-à-dire la limite, de, par exemple, de volume d'entraînement. Qu'est-ce que son corps est capable de tolérer avant de dégrader sa performance ? C'est tout ce que font les sportifs de haut niveau. Donc, il y en a qui peuvent tolérer des plus hauts volumes d'entraînement, d'autres non. Et ce qui est intéressant, c'est que pour la connaître, il faut s'en approcher très proche. Sauf que ce truc-là, évidemment, ce n'est pas mathématique. C'est très, très dur, en fait, de s'arrêter juste avant la rupture. Donc, finalement, tu vas pousser un petit peu trop loin, il va y avoir rupture, et tu vas faire « Ah, putain, c'est ça ma limite ». Et après, tu vas éviter de te cramer. Tu vas préférer l'approximer, éviter d'aller trop, trop loin. Et donc, ça, la métaphore la plus classique, c'est sur les heures de travail, simplement, le nombre de jours de travail, même par semaine. Et en fait, se cramer, c'est pour ça que ce n'est pas un échec. Ce qui est un échec, c'est de se cramer deux fois sur le même truc. C'est-à-dire, tu savais ce qui était ta limite, et tu es quand même retourné comme un trou du cul. Tu sais que tu ne peux pas travailler 7 jours par semaine, 10 heures par jour, et tu le refais, et tu te recrames. Là, tu es un trou du cul. Donc, l'important... Moi, je vous encourage à tous. Et si jamais vous jouez au jeu des athlètes de haut niveau, j'ai placé mon postulat, eh bien, il faut essayer de trouver votre limite. Et donc, il faut pousser. Il faut regarder quand est-ce que ça ralentit un peu. Je ne vous conseille surtout pas d'aller jusqu'à la rupture. Le but, hein, justement, c'est de s'arrêter avant la rupture. Il n'y a aucun entraîneur de sport qui vous dira qu'il faut se blesser. Mais parfois, ça peut arriver. Les athlètes, ils se blessent. Parce que ce n'est pas mathématique comme truc. Et donc, quand tu te crames, sois ton meilleur ami. Ne sois pas dur avec toi-même. Ok, tu t'es cramé, comment tu vas faire pour ne pas te recramer ? C'est pas grave, ça veut dire que tu t'es poussé. D'accord ? Ça va être très dur, tu vas manger la merde, c'est arrivé à tout le monde, personne n'est parfait. Donc la leçon de ça, c'est pour devenir un athlète de haut niveau, il faut découvrir sa limite. Soyez indulgent avec vous-même, si vous êtes sur la bonne voie, et évitez de faire deux fois les mêmes erreurs. Une fois ça, tu peux l'étendre, hein, pas juste sur la performance. Sinon, ça veut dire que vous n'apprenez pas. Numéro 4. La confiance en soi vient du travail. Alors ça, c'est un débat que j'ai eu avec le Raptor dans le podcast, je vous spoil un petit peu, mais vous savez qu'un de ses fers de lance, c'est la confiance en soi se construit par la compétence. Je suis absolument d'accord. Il y a Alex Hormozzi qui dit aussi que tu construis pas ta confiance en toi en disant des affirmations devant le miroir, mais en stackant, c'est ça, oui, en stackant, en ayant un stack de preuves indéniables que tu es qui tu dis être. C'est ça, je crois, la citation. Donc en gros, c'est la même chose, par la compétence. Quand tu sais que tu es devenu super stock et que tu t'entraînais 3 ans à la salle, boum, t'as confiance en toi. C'est la compétence, t'es compétent dans quelque chose. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je pense que moi, si j'ai un gosse, j'essaierai de faire en sorte qu'il commence un sport très tôt, qu'il soit très bon dans quelque chose très tôt. Parce que c'est ça qui développe la confiance en soi. Et je sais pas si vous aviez des potes comme ça au collège, lycée et tout. Mais c'est des gens qui, limite, en fait, sont définis par le truc dans lequel ils sont bons. Ah, c'est le mec qui fait de la boxe. Ah, il est champion de France de boxe. Ah, putain, c'est le gars qui court super vite. Ça, c'est des trucs où tu peux te construire une identité dedans. Et ça t'apprend la confiance en toi. Que putain, tu peux être bon dans quelque chose. Le travail, ça paie. Et donc, évidemment, je suis d'accord avec ça. Mais j'ai même envie d'aller un petit peu plus loin. Et notamment, qu'est-ce qui se passe au démarrage? Quand tu veux mettre en place une dynamique de changement dans ta vie et que tu n'as pas encore la compétence, est-ce que ça veut dire que tu dois ne pas avoir confiance en toi? Et donc, cette situation, je l'assimile beaucoup à ce qui se passe au poker. Au poker, donc moi, j'ai commencé le poker il y a 4-5 ans. Et j'ai notamment beaucoup joué au poker en Australie. Et ce qui est très dur avec le poker, c'est que tu peux être le meilleur joueur du monde et quand même faire, par exemple, 6 mois où tu fais que perdre. Ça s'appelle la variance. C'est très simple. Et donc, du coup, tu peux pas vraiment te fier au résultat, donc en gros, ta compétence, entre guillemets, pour juger est-ce que tu peux avoir confiance en toi sur ton niveau de poker. Donc, pour ça, moi, la façon dont j'avais craqué le truc, c'est, je me rappelle très bien que c'était une des premières fois avec la salle de sport, quand j'ai commencé en 2017, ça m'a fait la même sensation. Ce qui m'a donné confiance en moi, c'est le travail. Le fait de me dire, une personne de très haut niveau en poker travaille de telle façon. Moi, je vais travailler de telle façon. Je n'ai pas encore le niveau de la personne avec le gros niveau de poker, mais c'est une anomalie statistique si je n'ai pas la compétence qui vient derrière. Et c'est exactement ce qui se passe, ce qui s'est passé là quand j'ai commencé à me foutre au sport. Je me dis, écoute, je m'entraîne en quoi, entre 6 et 7 fois par semaine. Et c'est qu'il y a un alignement de planète pas possible si je n'ai pas les résultats que j'ai envie d'avoir. Et finalement, oui, après, la compétence arrive. Mais ce qui est très dur, c'est que dans cette période, avant d'avoir la confiance en soi, c'est là où les projets se meurent, s'éteignent. Où les gens se disent « Ah putain, mais ça change pas, j'ai pas perdu de poids, j'ai pas pris de muscles. » C'est très très dur de tenir. Donc ce qui va vous permettre de tenir, ce que je vous recommande, c'est de vous dire que vous travaillez comme quelqu'un qui a les résultats que vous voulez. Et le travail, si vous travaillez, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. En fait, vous réduisez tout, j'en ai parlé la dernière fois, vous réduisez les chances de fail, chaque session de travail que vous rajoutez. Donc voilà, donc la confiance en soi vient aussi du travail, selon moi, avant qu'elle vienne de la compétence. Numéro 5. Pas de loyauté sans courage. Alors c'est encore une fois une discussion que j'ai eue avec Ismail, dans lequel on lui demandait de donner un peu les qualités qu'il cherchait chez ses amis, et il a parlé d'une qualité avec laquelle je suis absolument d'accord, c'est un truc que je recherche, mais d'ailleurs pas juste chez mes amis, aussi chez ma partenaire, c'est la loyauté. Et la loyauté, c'est un sujet qui peut sembler assez simple, tout le monde se dit « ouais, moi je suis loyal et tout, tranquille, je trahis pas ». Mais c'est comme quelqu'un qui dit, je vais vous prendre un autre exemple, ouais, c'est comme quelqu'un qui dit « moi je suis pacifique ». Et en fait, c'est une personne qui ne sait pas se battre. Le truc, c'est que t'es pas non-violent en fait, tu n'as pas le choix. Parce que du coup, c'est pas un choix vraiment que tu fais d'être pacifique. Tu ne sais pas te battre, c'est un de mes profs de boxe en Australie qui disait ça. Donc t'es juste inoffensif, tu peux faire de mal à personne. Donc vous voyez, ce genre de choses-là, c'est exactement la même chose sur la loyauté, c'est-à-dire que tu n'es pas vraiment loyal avant d'avoir eu ta loyauté mise à l'épreuve. Et moi, j'ai eu ma loyauté mise à l'épreuve plein de fois. J'ai pas toujours. C'est pour ça que je voulais parler de ce sujet-là, c'est parce qu'il ne suffit pas de se dire qu'on est loyal pour être loyal. Justement, chaque occurrence, c'est une occasion de la travailler. Un exemple classique pour moi, ça a été Oussama. Je donne un exemple. Oussama, donc c'est la personne qui m'a fait prendre goût, c'est ça que je voulais dire, à l'entrepreneuriat. Et ça, je ne pourrais jamais lui retirer. Je n'aurais pas lancé ma boîte si je n'avais pas consommé son contenu. Ce qui se passe, c'est que bon, c'est une personne qui a eu le futur qu'on lui connaît, qui est dans des affaires sur lesquelles on a un peu de mal à démêler le vrai du faux. Et bref, donc tout ça pour dire que simplement, c'est une personne qui est pas mal détestée par une partie, principalement les gens puissants en France. Donc je rencontre de plus en plus ces gens-là maintenant. Et à chaque fois qu'ils me parlent d'Oussama, bon, évidemment, ils sont... Comment on dit, ne pas tarir d'éloge, c'est quoi l'inverse? Donc bah, disons qu'ils sont assez durs avec lui. Eh bien, moi, je suis dans des situations très inconfortables. Où à la fois, c'est quelqu'un qui m'a apporté énormément, qui m'a rien fait, avec lequel je suis parti en vacances avec Oussama. Je suis parti une semaine en vacances avec lui, ça s'est trop bien passé, il m'a invité chez lui. Donc, c'est pas quelqu'un qui a mérité le droit que je parle mal de lui. Et donc, avant d'être loyal, c'est ça que je voulais dire, il faut être courageux. Parce que dans cette situation-là, ce qui va faire que vous allez parler mal, c'est pas que vous n'êtes pas loyal. En fait, le sentiment que vous avez sur quelqu'un, vous l'aurez toujours. C'est le manque de courage. Vous n'aurez pas le courage de faire... Là, tu peux faire deux choses, en fait, pour soutenir quelqu'un. Soit tu ne valides pas ce que la personne est en train de dire, donc tu changes le sujet, tu t'évites de t'incriminer. Soit, ça c'est vraiment si tu as envie d'être belliqueux, tu t'opposes. Tu dis, mais non, écoute, c'est mon pote, il a pas fait tel truc, etc. Tu rentres dans une opposition, ce que j'ai pas forcément envie de faire. Et ce que j'aurais probablement fait si quelqu'un avait mal parlé de, je sais pas, ma meuf ou inexistante, hein, je précise, mais disons, une personne à qui je partage ma vie, ma soeur, mon frère, etc. Ces trucs sur lesquels des gens qui sont avec qui je suis très très proche, et donc je pense qu'en fait j'aurais même pas fait le choix, ça serait parti juste tout court. Donc pour ça, vous portez ses couilles. Et donc je suis allé chercher la définition un petit peu du courage, je trouvais plusieurs choses intéressantes. Le courage est une force morale, c'est le fait d'agir malgré les difficultés. C'est une énergie dans l'action, dans une entreprise, donc dans le fait d'entreprendre quelque chose. C'est aussi une force devant le danger ou la souffrance, et ça s'oppose à la lâcheté, la peur. Donc la bravoure, et la bravoure. Enfin non, ça ne s'oppose pas à la bravoure, mais c'est un équivalent, c'est la bravoure, synonyme. Et donc comment est-ce qu'on construit du courage, les amis? Eh bien, on construit du courage exactement comme on construit de la compétence, avec des petites victoires. Le courage, vous l'avez compris, c'est apprendre à faire des choses dures. Donc, dans l'adversité, porter ses couilles, simplement, pour le dire très vulgairement. Et voilà, évidemment, ça marche aussi pour les gens qui n'ont pas de couilles. Hein. Parce qu'il y a une bonne partie d'ailleurs de mon audimat qui n'est pas masculin. C'est beaucoup mieux que sur YouTube où je crois que c'est 92% de watchers masculins. Sur le podcast, je ne sais plus combien c'est, mais c'est super équilibré. Vous savez quoi, je vais aller checker en direct là, pour que vous puissiez savoir. Et là, je me rends compte, en fait, je dis totalement de la grosse merde. Et attends, en même temps, je vais pouvoir vous parler de la suite. Donc, pendant que ça charge... Ah bah non, c'est bon, c'est chargé. Je vais voir... Analyse, public. C'est pas beaucoup mieux, mais c'est un peu mieux. C'est quand même 86% d'hommes. Putain. Bon, bah, les filles, d'ailleurs, je suis désolé si je m'adresse principalement des personnes de type masculin dans ce podcast, c'est parce que c'est 86% de l'audimat, mais j'espère que voilà, ça ne vous empêchera pas d'écouter quand même. Ah d'ailleurs, je découvre des trucs sur vos âges. Vous avez 13,4% à avoir entre 18 et 22 ans, 37% à avoir entre 23 et 27, 30% 28-34, 14% 35-44. J'ai quand même 1,5% qui a 60 et plus. Hein. Donc salut Robert, si tu nous écoutes. Ouais, j'ai encore dit un prénom de mec en plus. Salut Gertrude. Qu'est-ce que c'est méprisant ? Qui est méprisant, le Théo ? Je rigole, évidemment, je fais une petite blague. Bref, donc, on en était sur construire du courage. Donc, le courage se construit dans les petites victoires. Apprenez à surmonter des petites difficultés, comme faire votre lit le matin, par exemple, faire de la méditation, aller au sport, etc. C'est des choses qui comptent derrière. Et j'avais lu un truc très intéressant sur le courage, c'était l'une des seules qualités qu'on ne peut pas fake. C'est-à-dire, quand tu fais, par exemple, semblant d'être gentil, tu peux en fait ne pas être gentil. Par contre, quand tu fais semblant d'avoir du courage, en fait, c'est du courage. C'est un truc que tu ne peux pas fake. Et malheureusement, tu ne peux pas savoir si tu es courageux avant d'avoir eu à faire preuve vraiment de courage. Donc, il faut se le prouver avec des petites victoires. C'est ma recommandation. Comme par exemple, continuer à courir aussi quand vous avez envie d'arrêter. C'est pour ça que ça marche bien, t'es un runner. Et je voulais vous donner un petit exemple de comment est-ce que... Moi, j'ai eu beaucoup de mal à savoir si j'étais quelqu'un de courageux ou pas. Je n'ai pas beaucoup de preuves dans ma vie de moments où j'ai dû faire preuve d'énormément de courage. À part, bon, peut-être le fait de se lancer et monter une boîte. Mais ça, c'est vraiment le truc qui grossit par les médias, la société, etc. On a l'impression que c'est un geste de ouf de se lancer. Moi, je ne l'ai pas du tout vu comme une énorme prise de risque. Je n'ai pas eu besoin de faire preuve de grand courage. Par contre, une fois où j'ai dû faire preuve de courage, je l'ai peut-être déjà raconté, je ne sais plus, ça me dit quelque chose. C'est quand j'ai été en échange aux États-Unis. J'ai fait mes études à USC et j'ai été, il se trouve, dans un bâtiment dans lequel il y a eu une alerte aux tireurs isolés. parce qu'apparemment c'est la routine là-bas aux US. Et donc j'étais dans un bâtiment où il y a des gens qui sont arrivés, qui sont rentrés dans la salle et qui ont dit il y a un tireur dans le bâtiment, fermez toutes les portes. C'était un bâtiment de 3-4 étages et donc on ils disaient ouais, il est à l'étage du bas, il va monter. Donc là, tout le monde panique, tout le monde se fout sous les tables, tu crois que tu vas mourir, bref, tout le monde appelle sa mère, ça pleure, etc. Et là, il y a la, du coup, c'était la professeure qui était encore dans la salle, puisqu'on était en cours, qui dit il faut mettre des tables contre les portes pour barricader. Et là, silence de mort. Personne répond. Elle répète une autre fois. Quelqu'un peut se lever et prendre une table et mettre contre la porte? En anglais, hein, évidemment. Personne bouge. Et dans la classe, il y avait des gros babards là, de frat, des gens super musclés qui faisaient les coques et tout. Et personne bouge. Troisième appel, je me dis, bon, ok. Là, faut y aller. Et donc, je prends la table, je la déplace, je commence à laisser de la foutre sur la porte. Et sur la porte, il y avait un hublot qui permet de voir dehors. Et là, j'entends « Don't move !» un truc genre « Hands in the air », je sais plus ce que c'était. Parce que je me souviens que je suis sorti les mains en l'air, en fait. Et donc, j'ouvre la porte, je sors. Il fait « What's your name ?» What's your name? Et moi, j'arrivais plus à parler. En fait, j'étais I'm French. Je suis français. Je suis pas le terroriste. Et en fait, c'était le SWAT qui était en train de pointer leur pistolet sur moi. Et voilà. Et donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça déjà? Oui, c'est pour le courage. Oui, donc je savais pas. Bon, c'est du courage à retardement. Je suis pas manifesté aux deux premiers trucs, mais en vrai, personne n'était là. Je l'ai fini par le faire parce que. Tout le monde se chie dessus de sortir parce qu'évidemment, il s'est passé exactement ce qui pouvait se passer, c'est-à-dire que t'es le putain de tireur qui soit derrière la porte et que tu te prennes la première balle pour tout le monde. Donc j'ai pris le truc, peut-être que c'était con, peut-être que c'était courageux, je sais pas, mais en tout cas, je le garde dans la tête comme un moment où je me suis dit, dos au mur, je peux faire un truc, je suis pas paralysé. Voilà, donc prouvez-vous que vous avez du courage, pas obligé de faire des trucs aussi extrêmes, enfin, je vous souhaite pas que ça vous arrive, évidemment. Voilà. Pendule numéro 6. Donner aux gens ce dont ils ont besoin, pas ce qu'ils veulent. Bon, ça, vous connaissez peut-être la citation connue d'Henry Ford qui disait si les gens m'avaient demandé, si j'avais écouté les gens quand ils me disaient ce qu'ils voulaient, ils m'auraient demandé des chevaux plus rapides et pas une voiture. Donc, en tant qu'entrepreneur, en tant que responsable dans une entreprise, en tant que manager, en tant que C-level, vous ne pouvez pas piloter une entreprise ou une équipe en demandant aux gens ce qu'ils veulent. Ça marche aussi quand on fait du contenu sur YouTube. Je ne peux pas arriver à vous dire « Qu'est-ce que vous voulez sur YouTube ? Qu'est-ce que vous attendez de ce podcast ?» Et je le fais et ensuite ça marche. Parce que vous, en fait, malheureusement, vous ne savez pas, mais vous êtes con en fait. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Et moi non plus. Hein. c'est aussi simple que ça. C'est très très dur en fait. Et ça me fait penser à ce que m'avait dit une personne. Mais j'étais le DJ d'HEC moi d'ailleurs, j'en parlerai dans mon épisode. Et donc j'ai appris à DJ sur Internet. Je faisais les soirées le jeudi soir là au Pau. Et... Il y a une citation qui m'avait marqué d'un DJ, je crois que c'était Laidback Luke, qui disait le travail du DJ, c'est pas de mettre les sons que les gens veulent, c'est de mettre les sons que les gens ne savaient pas qu'ils voulaient. Je trouvais ça trop stylé. C'est exactement pareil quand tu montes un produit, quand tu montes une boîte. Tu dois pas donner aux gens ce qu'ils veulent immédiatement, parce que souvent, ça va être des trucs de confort ou des trucs qui vont pas faire progresser ta boîte, parce que eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est très simple. Et quand je dis eux-mêmes, c'est moi-même dans un autre contexte, hein. Si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros je suis pas toujours le mec en haut de la pyramide alimentaire, hein. Il y a des situations dans lesquelles on me demande ce que je veux et je suis pas capable de répondre aussi. Donc c'est comme un entraîneur qui te fait faire des entraînements durs. Son travail, tu vois, c'est pas de te faire ce que tu as envie de faire le moment même, parce que sinon il y a des jours où tu n'auras pas envie d'aller courir, tu n'auras pas envie de t'entraîner. Sauf que les athlètes de haut niveau, ils peuvent pas se permettre de faire ça. Il faut qu'ils s'entraînent quand ils ont envie, quand ils ont pas envie. Et donc mon conseil là-dessus, c'est ne donnez pas, enfin ne si j'écris en anglais, putain, parce que je sais pas comment l'écrire en français. Don't take things at face value. Donc, voyez derrière les mots. Quand quelqu'un vous dit quelque chose ou qu'il a envie d'un truc, essayez de voir derrière. Pourquoi est-ce qu'il a envie de ce truc? Et là, le meilleur process, c'est le truc des five whys. Tu te demandes pourquoi, 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 pourquoi et pourquoi. Je crois que ça fait 5. Et c'est comme ça que tu es censé arriver jusqu'au bout, enfin, la racine du problème. C'est comme quand un client ne signe pas avec toi et qu'il te dit « Ouais, j'ai pas signé parce que c'était trop cher. » Pourquoi c'était trop cher? Pas parce qu'il y a l'autre là qui m'a proposé moins cher. Il y avait quoi dans l'offre de l'autre? Il y avait ça. Et pourquoi c'était bien? Et pourquoi il a... Etc. Et là, tu remontes, en fait, tu te rends compte que ce que tu pensais être un problème de prix, en fait, un problème de... Tu as répondu à côté de la plaque et il te manque une slide dans ta présentation, dans ta réponse à l'appel d'offres. Et donc, il y a une autre citation, je vais vous laisser là-dessus sur cette pendule numéro 6. C'est « Tes actions crient si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Voilà. Donc, croyez ce que les gens font, pas ce que les gens disent. Numéro 7. Je vais vous expliquer ce qu'est une croyance utile. Donc, un système de croyance, c'est un petit peu, disons, le filtre, donc les lunettes que tu as sur le pif, quand tu vois la vie. C'est genre, comment ça s'appelle? Ça s'appelle une lentille, voilà. Et donc souvent, c'est constitué par tes croyances. Donc tu crois que, par exemple, tous ceux qui ont de la thune, c'est des fils de pute. Et donc tu te dis, chaque fois que tu vois un mec qui a de la thune, qui fait quelque chose, genre au resto, je sais pas, peut-être, il dit que merci et pas merci beaucoup, tu dis, ah, c'est parce que c'est un fils de pute. Tu vois, tu sais que ta meuf ou ton mec est tout le temps en retard, et bah, parce qu'elle part jamais à l'heure, etc. Et, bah, et quand elle arrive à la maison en retard, tu fais, ah putain, c'est un fils de pute, il est tout le temps en retard, alors qu'en fait, il était dans les bouchons, il est parti t'acheter un cadeau à Sephora. Toute correspondance avec des faits réels serait fortuite. où est-ce que j'en étais ? Donc, moi, je trouve qu'il faut choisir les croyances par rapport à ce qu'elles produisent comme résultat dans ta vie et pas forcément par rapport à leur véracité. Donc, finalement, on s'en fout qu'une croyance soit vraie ou pas. Ce qui est important, c'est est-ce que ça t'aide à atteindre ton objectif ou pas ? Exemple, j'ai beaucoup consommé le contenu du Raptor, donc le podcast Les 10 000 pas. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ses opinions. En fait, je ne l'écoute pas du tout pour ça, ce podcast. Je l'écoute déjà parce que c'est une très belle démonstration de courage sur ces opinions-là, avec lesquelles, bon, pas forcément que je les partage, mais je suis impressionné qu'il arrive à les tenir comme ça, et ça m'inspire beaucoup. Mais la façon, en fait, le delivery de son message, et c'est ça pour moi la vraie valeur de 10 000 pas, putain, c'est dur. Il n'est même pas tard, en plus, j'ai pas d'excuses. Avant de bégayer, je disais quoi ? Oui, voilà, la vraie valeur de son message, c'est qu'il est brut. Au lieu de te dire peut-être que tu devrais essayer de faire ça, il va dire fais ça enculé. Si tu fais pas ça, t'es une grosse merde. C'est pas exactement ça qu'il dit en plus. Il dit surtout que tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que tu peux pas dire que tu veux être un mec super stylé et pas faire des trucs, pas mettre en place des efforts de mec super stylé. Donc moi, ça a bien marché, ce genre de croyance-là. Donc croire des trucs comme le travail paye, il faut être discipliné, il faut travailler, etc. Ces trucs-là, ça a très très bien marché, la forme qu'il a donnée à ce propos-là. Et donc finalement, c'est très très dur de savoir si quelque chose est vrai. C'est beaucoup plus dur que de savoir si quelque chose fonctionne, finalement. Et on s'en fout, en fait, de savoir si quelque chose est vrai, parce que dans tous les cas, les croyances, ça change. Ça peut être vrai pendant 10 ans, et puis après, vous savez, c'est comme la science. Hein. La science, c'est pas un tissu de vérité, c'est un ensemble d'expériences qui ont donné des conclusions et qui constituent, pas la doxa, mais disons le système de connaissances, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par un truc suivant. Je vous rappelle qu'il y a quand même une époque où les gens pensaient que la Terre était plate. Donc... voilà, ce qui est important surtout, c'est qu'est-ce que ça produit comme impact dans ta vie, cette croyance que tu as choisie. Et c'est exactement, bah, vous voyez, j'ai grandi à Versailles, l'impact de la religion, c'est exactement ça. Et qui est capable de prouver ici que n'importe lequel des dieux existe ? En fait, c'est pas le sujet, c'est pour ça que les gens comprennent pas les religions d'ailleurs. C'est qu'est-ce que ça produit comme résultat dans ta vie ? Mais il y a des valeurs qui viennent avec les religions. Et c'est pour ça, disons qu'en fait, ça fédère simplement, c'est comme un groupe. C'est un groupe, tu peux y avoir des groupes d'entrepreneurs, des groupes de running, des groupes de lecture, etc., qui se regroupent autour de valeurs. Et bien voilà, croire dans une religion, c'est simplement, c'est partager des valeurs avec des gens. Et donc ça produit un résultat sur ta vie que tu vas respecter les valeurs. Donc finalement, en fait, bon, quelle est la conclusion de tout cela ? C'est que choisissez vos croyances pour qu'elles rendent plus facile l'atteinte de vos objectifs. Je vous en donne quelques-unes qui sont très utiles pour l'entrepreneuriat si vous voulez construire un truc gros. La première, c'est l'ownership, de croire que tout ce qui vous arrive est dans votre responsabilité, de ne pas soucier des trucs qui ne dépendent pas de vous. Il y a la discipline, il y a le goût de l'effort, etc. Tous les trucs. En fait, franchement, si vous voulez, je pense devenir un excellent entrepreneur, essayez de faire comme un athlète de haut niveau. Moi, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Et ça marche beaucoup mieux. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire particulièrement depuis que j'ai lancé ce podcast, qui est venu un peu avec le... J'ai du mal à parler aujourd'hui. Hein. En fait, avec le move de je me réchauffe un peu, simplement. Donc choisissez votre système de croyance comme ça, on s'en fout en fait finalement. Si quelqu'un vous dit que c'est pas vrai, fait ok, et alors et ça me produit quoi de croire ce que tu crois toi ? De croire qu'en fait, ouais, vas-y, faut rien foutre, je vais attendre que l'État vienne me sauver, etc. Ça, c'est des trucs que tu n'as pas le droit de croire si tu veux monter une boîte. Tu peux pas. C'est une croyance qui te remet dans le sens inverse de la prise de responsabilité et la création de valeur. Voilà. Et donc, dernière pendule à remettre à l'heure, c'est la numéro 8. Je vais vous expliquer la différence entre capter la valeur et créer de la valeur. J'en ai peut-être déjà parlé, mais j'ai quand même des trucs à redire dessus. Vous emmerde, vous allez écouter deux fois. Alors, ce dilemme, selon moi, il explique ma conception de l'entrepreneuriat, ce que je veux faire versus ce que je ne veux pas faire. Disons qu'un entrepreneur veut augmenter son chiffre d'affaires. Il y a deux types de réactions face à ça. Il y a celui qui va améliorer son produit, donc apporter plus de valeur au client. Celui qui crée de la valeur. Et il y a celui qui va lancer une nouvelle publicité, ou qui va lancer un nouveau flow d'email, ou qui va chercher à activer un nouveau canal d'acquisition. Ça, c'est celui qui capte la valeur. Et donc, tu peux catégoriser les entrepreneurs dans une matrice. Donc, vous voyez, quand il y a deux facteurs, on peut faire une matrice. Il y a quatre carrés dans une matrice. Dans quatre catégories. Ceux qui créent très bien la valeur, ceux qui la captent très bien, ceux qui la créent pas du tout, etc. Vous comprenez, bref. Et donc, c'est un cas de facteur. Ceux qui créent bien, ceux qui captent pas bien, etc. Donc, tu peux catégoriser les gens un petit peu dans ces deux catégories-là. Ça crée une matrice. Donc, par exemple, une association ou une ONG, c'est dans la catégorie « je crée de la valeur, mais je la capte pas » de façon monétaire. On est vraiment avec le prisme monétaire, là. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cadran « je ne crée pas de valeur, mais j'en capte beaucoup » Eh bien, il y a les dropshippers. C'est pour ça que je ne ferai jamais de dropshipping. C'est parce que toutes les solutions qui sont apportées souvent à des problèmes de dropshipping ou d'e-commerce un peu bas de gamme, c'est « oh putain, comment je peux scaler mon budget ads ?» Au lieu de se dire « comment je fais en sorte que les gens recommandent un petit peu plus chez moi ?» Comment j'améliore mon produit, etc. Et pour moi, à partir du moment où tu commences à te poser ces questions, et donc tu es plus dans le côté création de valeur que captation de valeur, tu deviens un vrai entrepreneur, seulement. Et plus juste un mec qui fait du business en ligne. C'est d'ailleurs toute la différence, hein, je pense, entre le business en ligne et l'entrepreneuriat. Voilà. Et donc ça veut dire quoi, par voie de conséquence, si on est d'accord avec cette dissension, comment est-ce qu'on dit ? Différenciation, dichotomie, typologie. Typologie, là, c'est ça. C'est pas parce que quelque chose marche que ça crée de la valeur, les amis. Et je dis marche d'un point de vue monétaire. Et donc, plus précisément, c'est pas parce qu'un business, le business A marche mieux que le business A crée plus de valeur que le business B. Ne vous méfiez pas. Pas parce que tu gagnes des dizaines de millions que tu crées plus de valeur. Voilà. Eh bien, c'est la fin. C'est parti pendule à l'heure. On peut passer au meilleur contenu de la semaine. Il y en a deux. Re-jingle. Tout. De contenu, cette semaine, on enchaîne sans se foutre de la gueule de mon jingle vocal. Le premier, c'est un petit documentaire sur Arte qui s'appelle « Une histoire de la guerre économique ». Je vous les mettrai dans la description, hein, tout ça, vous inquiétez pas. Je l'ai trouvé super parce que ça donne des modèles mentaux pour un peu réfléchir à comment des puissances, donc pour le coup c'est des États, se font la guerre économiquement, tout simplement. Et bon, ça fait un petit peu réaliser qu'il n'y a aucune décision économique qui n'est prise pour le bien des gens. C'est vraiment... ce qui sort, selon moi, de ce docu, qui est très agréable et qui est franchement un super docu pour un dimanche. C'est parfait. Le jour pour mater ça, c'est un dimanche. C'est génial. Donc, ça parle de plein de choses. Par exemple, dedans, j'ai découvert que la HSBC, donc vous savez, la banque, avait été construite avec la thune de l'opium, pendant la guerre de l'opium. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu choquant. Je ne savais pas. Et ça explique un peu les grandes guerres économiques. Comment est-ce qu'elles ont eu lieu ? Super, super divertissant. Voilà. Second contenu de la semaine, c'est... Alors, il faut remarquer que, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais la chaîne Bloomberg Business a eu un renouveau ces derniers mois avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, son nom de famille, c'est Chang. Emily Chang, voilà, qui est une intervieweuse et qui fait le tour un peu de la Silicon Valley, là, et qui produit des contenus d'une qualité incroyable en termes de questions qu'elle pose, de visuels aussi. Donc cette fois-ci, elle est allée voir Brian Chesky. Brian Chesky, vous connaissez peut-être, c'est le fondateur d'Airbnb et actuel CEO. Et il donne une punchline notamment dans ce contenu. Donc ça s'appelle « At home with the billionaire CEO behind Airbnb », de circuit, ça s'appelle. Vous aurez le lien, ne vous inquiétez pas. Il te dit qu'en tant que fondateur, tu dois scaler plus vite que ta boîte, sinon c'est ta boîte qui te tire. Et oh putain, ça décrit parfaitement la situation que j'ai vécue cette dernière année, disons l'année numéro 3 de Kodak. J'ai eu l'impression que je me suis laissé dépasser par mon entreprise et que là, je reviens dans le game un peu là depuis 5-6 mois en reprenant le dessus, c'est-à-dire être on top of things. J'ai trouvé ça trop stylé qu'il dise ça. Et donc, ça veut dire qu'en fait, tu dois scaler en tant qu'individu. C'est pour ça tous ces trucs de sport, là, de méditation, de trucs. Tous les entrepreneurs font ça. C'est parce que ça te permet d'être one-up sur ton business, c'est-à-dire que tu as un temps d'avance. Parce que plus une organisation est grosse, moins elle avance vite, même si elle scale. Donc ça veut dire qu'en tant qu'individu, tu peux progresser beaucoup plus vite qu'elle. Donc tu as toujours l'occasion d'être bien meilleur qu'elle. Et encore une fois, c'est comme la confiance en soi. Personne dans votre entreprise n'ira plus vite que le fondateur. On passe à la rubrique numéro 5. Numéro 5. J'ai mal compté peut-être. C'est le performance check. Et on va parler de tapis. Alors... Combien de temps qu'on enregistre 54 minutes. Bon, parfait, on va être dans les temps. Une heure. Alors, je viens de finir la série sur Bernard Tapie, et je vais être honnête, ça m'a turbo-inspiré. J'ai trouvé ça incroyable. C'est 6 ou 7 épisodes, ça m'a très très bien. J'avais vu les deux premiers en plus dans le cinéma, là, sur les Champs-Élysées, c'était incroyable. Et le fait de me mater ça en plus, du coup, hier, putain, ça m'a fait quelque chose, et je pensais pas en vrai que le personnage de Bernard Tapie me ferait un truc. Je le connaissais pas, pour être honnête, hein. Je connaissais rien du tout quasiment de l'histoire, si ce n'est son nom, sur ce personnage. Donc je suis allé me renseigner. Je vous recommande d'ailleurs une petite vidéo que j'ai matée qui est de Gaspard G sur la vie de Tapie, qui complète très bien plein de choses qui ne sont pas présentes dans le docu Netflix. Enfin, c'est pas un docu d'ailleurs. C'est une série qui n'est pas non plus un biopic, ils l'ont dit avant de commencer. C'est librement interprété. En tout cas, c'est super divertissant et ça transmet bien les messages. Hein, parce que je vous rappelle, c'est ça l'objectif des films. Hein. C'est pas de dire la vérité, encore une fois. C'est comme les croyances. Il faut que ce soit utile, c'est-à-dire faut que ça fasse passer le message. Parfois, il y a des détails réels qui sont chiants pour faire passer des messages. Et donc, voilà, je me suis un peu renseigné autour de moi. J'en ai parlé, je dis, ouais, je suis allé voir le truc et tout, etc. J'en ai parlé à ma mère, notamment, qui disait, ils disent tous la même chose d'ailleurs. Deux personnes m'ont dit ça de suite. Ils m'ont dit, ah, Tapie, on a vraiment grandi avec. Et putain, et qu'est-ce qu'un mec peut avoir accompli dans sa vie pour que tu te dises, sans le connaître, on a grandi avec Tapie. Et elle me dit les grandes étapes de sa vie. Ah, la prison, l'OM, Adidas. C'est sûr qu'il a eu Adidas, ce con, putain. Donc, je pensais pas que ce genre de personnage m'inspirait, notamment parce qu'il a pas mal de qualités humaines qui n'en sont pas, en fait, qui sont des gros défauts. Donc, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de très honnête, de base. Il fait de la politique, c'est un truc qui ne me plaît pas du tout. C'est une grande gueule, je ne le suis pas beaucoup, à part dans ce podcast, évidemment. Il s'agit de niquer des mères à ceux qui font la semaine de 4 jours. Donc, je voulais un peu commenter ce documentaire, cette série. Est-ce que j'ai kiffé ou pas dans ce personnage ? Et tout en posant la question, vous savez que j'aime bien problématiser mes sujets, qui pourrait être le Tapie du XXIe siècle ? Et donc pour savoir qui peut être le Tapie du XXIe siècle, il faut commencer par se demander qu'est-ce qui définit Tapie ? J'ai noté 5 choses. Et vous allez voir qu'il y a une personne. La comparaison est à 99,9% parfaite. Donc il y a plusieurs points qu'elle définit selon moi. Le premier, c'est le building public. Donc Tapie, c'était qui est l'étendard du building public ? Un Gary Vaynerchuk avant l'heure. C'est quelqu'un qui a très très vite capté l'importance du média et qui a accepté la lumière, pour faire un petit retour sur ce que je disais avant. Il y a le média principal de l'époque, c'était la télé. Dites-vous quand même que le mec, il a fait Qui veut être mon associé avant tout le monde. Hein. Donc aujourd'hui, voilà, M6 n'a rien inventé, Shark Tank n'a rien inventé aux US, c'est Tapie. Bon alors, évidemment, et l'inspiration ou le vol serait compliqué à prouver, mais c'est quelqu'un qui a quand même été un peu la figure de l'entrepreneuriat en France, à la mode 21e siècle. Donc, et voilà, il a très vite joué à ce jeu, qui est d'ailleurs très dangereux, le jeu des médias, c'est ce qui a aussi fini par le perdre, qui lui a posé beaucoup de problèmes, mais qui l'a aussi fait scale très très vite. C'est quelqu'un qui a utilisé le levier du média pour aller beaucoup plus vite dans sa carrière. Donc à chaque fois qu'il a fait quelque chose, il a fait en sorte que les gens en parlent. Et donc ça, c'est le premier truc. Et la seconde chose, c'est qu'il a quand même une marque personnelle. Je vous en parlais dans l'épisode sur la viralité, sur Naval, là, le cinquième levier qu'il avait oublié. C'est la marque Tapie, en fait, il a un produit, et est un produit qui marche très très bien. Donc, il ne suffit pas en fait, de passer dans un média pour qu'on parle de vous. Je vous en ai parlé hein, de toute façon, dans cet épisode sur Naval, je vous invite à aller le reconsommer. Je vous explique pourquoi est-ce que le levier du média est sous-coté. En fait, c'est le levier des idées qui régit tout. Il y a pas mal d'aspects de sa marque personnelle qui sont très intéressants. Le premier, c'est son franc-parler. Ce qui est en fait d'autant plus unique que ce n'est pas quelque chose qui est commun chez ses concurrents, en gros les autres entrepreneurs qui auraient potentiellement essayé de faire du média, ou les gens qui passent à la télé, de manière générale. Et donc ça crée en fait un décalage avec le discours des autres. Et c'est un petit peu moi ce que j'essaie de créer avec Road to 10 Millions, avec pas avec la grande gueule, mais avec la transparence, disons. Enfin, mais la vraie transparence, hein, pas je fais un posting, oh putain, on a fait une erreur de ouf, on a mal recruté. Non, non, celui où, moi je vous dis, le building public, c'est les gens qui portent haut et fort quelque chose, qui disent je vais faire ça et qui se boitent devant tout le monde en public. Parce que c'est le commitment, ça s'appelle, donc l'engagement. Tu commites, tu dis ok, j'ai envie de faire ça, j'assume, et soit vous allez me voir fail, soit vous allez me voir réussir et je pourrais vous dire je vous avais dit quoi. Ça, c'est mon but. Hein. Quand je rate un retour de témoignage, je pourrais vous faire un je vous avais dit quoi. Puis tout à l'heure, il me téma. La Cédric Doumbé. J'en étais où? putain, il est en roue libre cet épisode, j'aurais dû l'écrire plus. Je suis resté dans le cadre. Bref, donc Tapie, il fait le show. Il accepte la lumière. Et surtout, il a un storytelling de « Je viens d'en bas, je suis started from the bottom, now we're here. » Qui était, c'était l'un des premiers à le faire, en fait. C'est le Yomi Denzel du 20e siècle. Donc ce storytelling, de toute façon, je pense qu'il ne mourra jamais, hein, parce que les gens peuvent toujours s'identifier à ce truc-là. Il suffit que tu viennes du bon endroit, en fait. De la bonne merde au démarrage, quoi. C'est d'ailleurs le truc que je ne pourrais jamais faire, potentiellement. Bon, malheureusement, j'ai grandi à Versailles, donc je ne pourrais pas faire genre « je suis parti de rien ». Donc voilà, je suis parti avec une très bonne éducation. Je ne suis pas parti avec de l'argent, mais je me rends compte que ce n'est pas que ça que t'apporte, évidemment, le fait de grandir dans des endroits sympas. Donc, même si j'ai tout commencé de zéro sur mon entreprise, je ne partais pas de zéro. Donc voilà, je ne pourrais pas prendre ce storytelling. C'est aussi pour ça qu'il ne me touche pas dans les gens qui font du contenu sur Internet, parce que je ne relate pas du tout avec ce truc. Et donc disons que j'inspirerais une autre partie des gens, hein, ceux qui n'étaient pas fauchés, étudiants fauchés. Voilà, mais ça répond à une grande partie de l'audience. Donc en gros, la marque Tapi, elle est virale par construction. Et c'est un des aspects, selon moi, si je devais re-identifier un Bernard Tapi, je prendrais quelqu'un voilà, qui a une marque très virale, très clivante, qui dit ce qu'il pense, etc., franc-parler, et qui a pris le jeu du média très sérieusement. Ce sont les deux premiers points. Troisième chose, c'est un manager de merde. Bernard Tapi est très impulsif. Il parle mal aux gens, il ne prend pas de forme. Il n'essaie pas de... Disons que... Tu vois, la progression des collaborateurs et les plans de carrière, ils s'en contrefoutent. Il serait fait cancel 2-3 fois sur Balance ta startup, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il agit sous le coup de la pulsion. Ça en fait aussi d'ailleurs un gestionnaire de merde, qui est assez paradoxal pour quelqu'un qui rachète des boîtes. Souvent, c'est des gens qui n'aiment pas lancer des trucs, mais plutôt les gérer. Non, lui, en fait, il est entre les deux. C'est-à-dire qu'il lance des trucs qu'il n'a pas créés, mais à la fois derrière, il ne sait pas les gérer. Du coup, il les plante ou alors il faut qu'il trouve quelqu'un pour les gérer. C'est spécial quand même, comme phénomène d'entrepreneur. Et donc, disons que c'est quelqu'un voilà, qui est très impulsif, qui a du mal à cacher qui il est et dont pas mal de relations finissent mal. Voilà, donc, et donc, j'ai simplifié ça par mauvaise compétence de management. Quatrième chose, c'est quelqu'un de sulfureux. Donc, c'est quelqu'un qui a des problèmes avec la justice, évidemment. J'ai découvert d'ailleurs dans ce documentaire une affaire que je ne connaissais pas, d'OM Valenciennes, qui m'a permis de mieux comprendre pourquoi est-ce que l'OM est une Champions League. Je trouve que d'ailleurs, on en parle très très peu en fait, hein, finalement, de comme quoi trafiquer un match de Ligue 1 avant la finale de la Champions League, comme si ça n'avait aucune corrélation avec le fait qu'une équipe gagne. Bon, donc ça change un petit peu l'histoire, mais et ça, il l'a très bien compris d'ailleurs dans son storytelling, c'est que l'histoire ne retient pas les détails. Hein. L'histoire retient les gagnants. T'as gagné la Champions League, c'est tout. Hein. Tout le monde s'en branle que t'aies acheté un pauvre match de Ligue 1 contre le dernier du championnat. Donc c'est quelqu'un qui arrondit les angles pour ses histoires. Et c'est un mec qui a souvent tout gagné et tout perdu. Donc c'est en fait quelqu'un voilà, qui doit se refaire constamment, qui crée tout, mais qui a du mal à faire perdurer. Donc la sulfure, voilà. Et dernière chose, c'est quelqu'un qui fédère. La vraie valeur qu'apporte Bernard Tapie dans tous les business qu'il reprend, c'est pas des trucs financiers, même si j'imagine qu'il est très bon là-dedans et qu'il a dû l'apprendre au fur et à mesure. C'est pas du compétence de management, on l'a dit. C'est il te vend une vision. Il emmène tout le monde avec lui. Il arrive à fédérer des gens qui sont déstructurés, qui vont dans tous les sens, qui sont divisés. Il les prend, il les ramène, il les fait travailler comme un seul homme. Il les emmène dans une direction. Et ça, c'est génial. Et donc, tout ça couplé au fait qu'il a une confiance en soi à toute épreuve, qu'aucun échec ne peut remettre en cause. Donc, je vous rappelle les 5 points. Build in public. Une marque personnelle très clivante et qui dénote avec son secteur. C'est quelqu'un qui est un très mauvais manager, qui gère mal les boîtes, qui crée mais qui fait foirer aussi. C'est quelqu'un de sulfureux et c'est quelqu'un qui fédère. Et malgré tout ça, malgré ces 5 choses, c'est ça le truc le plus original, c'est qu'il est dans le cœur des gens. Les gens l'aiment. C'est un mec très populaire et qui en fait est rentré tellement profond dans les sentiments des gens que peu importe ce qu'il fait, bah voilà, ça restera Tapi. Tapi, c'est Tapi. Donc si on reprend tous les facteurs, il y a une personne qui correspond en tout point. Et c'est sûrement aussi pour ça que la série m'a autant plu. Et cette personne, c'est Oussama Amar. Voilà. Les amis, c'est la fin de l'épisode 14 de Road to Tout est mignonne. Je vous embrasse. N'oubliez pas de mettre une note sur Apple Podcast. Ciao.